Je voudrais, avant la prière, lire dans l'épître de Jude, du verset 3 au verset 6. Jude, du verset 3 au verset 6. Bien-aimé, comme le désir de mon cœur est de vous écrire au sujet de notre salut commun, je me sens poussé à vous adresser dans ma lettre le rappel à l'ordre, à lutter pour la foi qui a été une fois pour toutes transmise aux saints. Car certaines personnes se sont glissées parmi vous qui ont été inscrits depuis longtemps pour la sentence de condamnation suivante. Des hommes impies qui abusent de la grâce de notre Dieu pour mener une vie débridée, la pervertissant, pour la dissiper et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Mais je vous rappellerai, les faits en question sont cependant tous déjà connus de vous, que le Seigneur a d'abord sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais que la seconde fois, il a détruit ceux qui n'ont pas cru. Levons-nous pour la prière. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Cela nous a été donné comme miroir pour que nous puissions regarder dans ta parole. Elle nous a été donnée comme miroir pour pouvoir reconnaître comment nous sommes à tes yeux, comment nous sommes, dans quel état nous sommes, dans quelles conditions nous sommes, à quoi est-ce que nous ressemblons. Accorde-nous ta grâce à cette réunion pour que nous en soyons conscients que maintenant nous sommes rassemblés dans ta présence. Nous sommes tous révélés devant toi. Pardonne-nous. Fais-nous grâce. Que le sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha, le sang avec lequel, comme souverain sacrificateur, tu es entré dans le sanctuaire céleste. Que ce sang puisse nous purifier maintenant de tout péché, de toute faute, de toute incrédulité, de tout, ô Seigneur. Bénis et sanctifie ce jour. Bénis et sanctifie cette réunion, ce culte, ô Seigneur. Bénis et sanctifie ton peuple qui est rassemblé en ton nom. Parle d'une manière particulière à nos cœurs. Accorde-nous des oreilles qui entendent, des yeux qui voient et un cœur qui croit. Ensemble, nous te demandons, accueille-nous et agrée toutes nos requêtes, sauve ceux qui sont perdus, guéris ceux qui sont malades et délivre ceux qui sont liés et rends justice à ton peuple. Ô Seigneur fidèle, nous te faisons confiance. Et arrêtons de regarder à nous-mêmes et de toutes les circonstances et de tout ce qui nous entoure et nous regardons à toi, le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre et qui habite dans le cœur de ceux qui sont humbles, qui ont un esprit humilié. Comme nous sommes ici en tant que de tels hommes. Tu connais les épreuves par lesquelles nous avons à passer tous. l'un de cette manière, l'autre d'une autre manière. Mais maintenant, rends-nous calmes. Que nous puissions oublier le quotidien avec tous ses soucis et détresses. Et que nous puissions voir personne et écouter personne et entendre personne en dehors de Jésus seul. Glorifie ton nom. Confirme ta parole au Seigneur. Et sois avec nous dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons reconnu la vérité et que la vérité nous a rendus libres, nous a libérés, nous a affranchis et que nous sommes devenus une partie de la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, peut-être ça va faire 3 semaines, j'ai reçu une lettre de Oman, du golfe de Perse, d'un jeune homme qui a lu en anglais la brochure « Le christianisme hier et aujourd'hui » et je me demande comment est-ce que la brochure a pu arriver là-bas. Un pays entièrement islamique et malgré tout, Dieu fait en sorte que d'une manière merveilleuse, sa parole atteigne les extrémités de la terre, atteigne tous les peuples, les langues et les nations. Comme déjà remarqué, on pourrait donner des témoignages concernant ce que Dieu fait. Et ça, nous le voulons. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Le Seigneur disait, « Vous serez mes témoins. » Pas seulement mes prédicateurs ou bien mes évangélistes, mais vous serez mes témoins. Vous rendrez témoignage de ce que je fais. Vous louerez l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes ici, que nous sommes là. Des hommes qui ont expérimenté Dieu ne peuvent pas garder ça pour eux. Ils veulent, n'est-ce pas, voir que d'autres entrent aussi dans le royaume de Dieu. Ils veulent attirer d'autres dans le royaume de Dieu. Mais avec nos efforts et ce que nous faisons, cela n'est pas suffisant. Il faut que ce soit le Seigneur qui le fasse. Lui seul peut le produire, mais il veut le faire si nous le lui permettons. Et parfois, il y a des hommes que nous avons vraiment dans le cœur, que nous portons particulièrement dans le cœur, des hommes bien-aimés que nous aimerions voir, que nous aimerions voir sauver et apporter au Seigneur. Et nous constatons notre incapacité. Il nous manque les paroles adéquates. Nous ne savons pas comment même commencer, comment leur parler subitement. Le Seigneur intervient. Et alors, il fait un miracle de grâce. Il sauve l'âme de rédemption. Miracle de salut, du salut. Et alors, les choses vont pour eux. Ce que nous voulions apporter au Seigneur, nous voyons que les choses vont pour eux, comme elles ont été pour nous. Ils sont venus aussi au Seigneur, ils viennent au Seigneur. Et nous qui avons eu des parents croyants, ils ont pu que nous parler du Seigneur, nous montrer le chemin qui mène à lui. Mais chacun devait lui-même prendre sa décision. C'est comme ça aussi avec tous ceux qui viennent au Seigneur. Et il est écrit, tout ce que le Père attire viendront à moi. Laissez-vous attirer aujourd'hui. Laissez Dieu vous adresser sa parole, vous parler, vous attirer. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Comme nous pouvons être reconnaissants dans cette génération, de vivre dans cette génération et d'avoir été informé par Dieu sur tout et dans l'histoire du salut, avoir une vue d'ensemble et aussi pouvoir distinguer et discerner ce que Dieu fait maintenant. Nous voulons maintenant entrer dans l'observation de la parole. Je reviens au dernier verset que nous avons lu de Jude. De Jude, nous lisions jusqu'au verset 5. Et je lis maintenant ici, jusqu'au verset 5, je voulais dire, je lis maintenant encore le verset 5. Mais je vous rappellerai, les faits en question sont cependant tous déjà connus de vous. Que le Seigneur a d'abord sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais que la seconde fois, il a détruit ceux qui n'ont pas cru. Entre le salut, la délivrance, la rédemption, la libération et l'entrée dans la terre promise, il y a toujours une période de temps et des épreuves de toutes sortes viennent sur nous. Nous sommes éprouvés et passons par des épreuves que nous pourrons seulement réussir dans la foi. L'incrédulité, le doute nous fait chuter, nous fait tomber. Mais la foi nous relève. Et c'est ainsi qu'il est écrit ici que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Qu'est-ce que c'était pour une foi? La même foi que Dieu t'a donnée à toi et à moi. C'est-à-dire la foi en Dieu, la foi en la puissance de Dieu, en Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la fidélité de Dieu, la foi qui de nous et de ce qui nous entoure ne regarde, la foi qui ne regarde pas à nous et à ce qui nous entoure, mais la foi qui s'élève et qui a une pleine confiance en Dieu, qui s'élève au-dessus de tout et qui a une pleine confiance en Dieu. C'est dans cette foi, qu'on vaincu tous ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Ils sont passés par des hauts et des bas, mais la fin était un couronnement. Ici, il nous est dit que le peuple d'Israël a été conduit à sortir, mais ensuite les épreuves sont venues. Et tous ceux qui n'ont pas cru périr. Et nous sommes pour cet objectif-là croyants, pour que nous puissions vraiment croire. Nous venons à la foi, c'est pour croire. Et que nous pourrons jamais remettre en question quelque chose que Dieu a dit et a fait. Que nous puissions estimer fidèle celui qui a donné la promesse et aussi plus que capable de les accomplir. De nous, cette foi biblique est exigée, est demandée, et Dieu soit remercié. Cette foi vient de la prédication, et la prédication vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que Paul écrit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13? La parole que vous avez entendue, vous ne l'avez pas reçue comme parole d'homme, mais telle qu'elle est réellement, comme parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, comme parole de Dieu, telle qu'elle est réellement. En fait, c'était le sujet de l'avant-dernier jeudi. Et ensuite, la question a suivi. Et ensuite, suivi la question. Comment nous pouvons savoir que le prédicateur prêche la parole de Dieu ou bien pas? Et là, j'étais... Ça, vous pouvez bien vous imaginer que tout de suite j'avais la réponse. Et alors, nous sommes allés tout de suite à Apocalypse chapitre 2. Tu as aussi éprouvé ceux qui font profession d'être apôtres, sans l'être, et tu as reconnu en eux des menteurs. Et nous avons mis les points sur les i. Il n'y a qu'une seule annonce originale de la parole de Dieu. Et cette annonce originale, elle est déjà écrite ici dans la Bible. Et ça, c'est la seule mesure, c'est la seule norme à laquelle tout doit être examiné. Parfois, une seule écriture donne toute la matière pour ce qui doit être dit. Revenons à notre sujet. La foi biblique est ancrée dans la parole de Dieu et de ce fait est ancrée dans la parole de Dieu, donc de ce fait ancrée en Dieu lui-même, car la parole est sortie de Dieu. Oui, elle est, oui, Dieu lui-même est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Donc, nous avons le commencement avec l'aide de Dieu. Nous avons pu faire le commencement avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. Mais nous voulons faire attention à aussi atteindre le but. Pas seulement être sorti, mais aussi réussir toutes les épreuves que nous rencontrons. Dieu ne va pas nous éprouver au-delà de ce que nous pourrions supporter. Personne. Parfois, cela semble être ainsi. Comme si que Dieu permet des choses que nous ne pouvons pas supporter. Permet plus que nous pourrions supporter. Mais non. Alors là, la parole de Galates 6 nous vient dans la pensée. Que chacun, donc nous portons les fardeaux les uns des autres et nous accomplissons ainsi la loi de Christ. Nous aimons les uns les autres. Nous soutenons les uns les autres. Nous nous comprenons les uns les autres. Je l'ai dit déjà à Krefeld, quand on parle avec les incroyants et que la question nous est posée, mais comment est-ce que c'est chez vous? Comment ça se passe? Alors nous disons simplement, oui, nous sommes une grande famille. Hein? Chacun prend soin de l'autre. Chacun connaît l'autre. Nous sommes tous un cœur et un seul cœur et une seule âme. Et alors qu'il n'y a pas longtemps, je le disais comme ça quelque part, alors le cœur a battu un peu plus vite et la conscience un peu plus. Donc le cœur a frappé plus vite, a battu plus vite et la conscience encore plus. Est-ce que tu as vraiment dit la vérité à cette personne? Ou bien alors tu as fait que parler de comment est-ce que les choses devraient être, hein, c'est une grande différence, n'est-ce pas? Nous savons comment les choses devraient être parmi les croyants. Et ça, nous le disons simplement aux gens déjà dans la foi que c'est ainsi. Mais combien peuvent le croire que nous allons arriver à ce point, à cet état, que dans l'amour de Dieu, les uns avec les autres, nous serons liés et que vraiment ta douleur est ma douleur et que ta joie est notre joie, est ma joie. Que chacun, avec chacun, partage tout et ça de tout son cœur. Car nous sommes, n'est-ce pas, membres d'un même corps, du même corps. Et nous sommes tous soumis à la même tête. Ce n'est pas le commencement qui sera couronné, le commencement de notre marche, mais la fin de notre marche. Mais pour que la fin puisse être couronnée, il faut que le commencement ait été fait. Et ce commencement doit avoir été fait avec Dieu. Et nous souhaitons à tous un vrai commencement avec Dieu. Tous ceux qui n'ont pas vraiment expérimenté un commencement réel avec Dieu. Mais bien aimé, vous savez, les connaissances, l'enseignement et les révélations et les choses divines ont inondé nos cœurs. Nous les estimons et nous sommes reconnaissants pour toutes ces choses. Mais le salut de l'âme, nous ne l'avons pas méprisé. Une seule âme est plus précieuse que le monde entier. Aujourd'hui, dans cette réunion, si un seul homme est conduit au Seigneur, oh, alors que Dieu soit remercié pour cette réunion alors. Alors cela a servi à quelque chose pour nous tous, d'avoir été ici aujourd'hui. Continuons dans 1 Pierre, chapitre 1. Ici nous lisons le verset 13. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. Voilà pourquoi vous devez être prêts et revêtus spirituellement de toute l'armure pour aller de l'avant avec audace. Soyez donc sobre et mettez votre espérance uniquement dans la grâce qui vous est offerte dans la révélation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous devez être prêt et revêtu spirituellement de toute l'armure pour aller de l'avant avec audace. Vous savez ce qui appartient à une armure quand on va à la bataille. J'ai aujourd'hui ici une prédication de frère Branham que j'ai amenée, que j'ai avec moi, sous le titre, je crois que c'est là, la plus grande bataille jamais livrée et aidée ici. Quelque part, je vais peut-être le lire encore tout à l'heure. Aujourd'hui, nous n'allons pas au combat avec un fusil. Nous allons avec une bombe atomique. Nous avons besoin pour le dernier combat d'une armure de Dieu qui peut rencontrer la puissance de l'ennemi pour que nous puissions, pour dans le champ de bataille, réclamer ce qui nous appartient déjà et être vainqueur et le recevoir dans la réalité. Et je vais vous dire comment est-ce que cela est possible. En ce que, dans la foi, nous nous tenons sur le sol de la victoire de Golgotha. Et là aussi, je voudrais le mentionner. Tout ce qui doit devenir une révélation vivante dans notre cœur doit auparavant avoir été accepté de nous dans la foi. C'est seulement à ce moment-là que, si consciemment nous l'avons accepté, reçu ce que Dieu nous a dit dans sa parole et a fait pour nous, et que cette parole que nous avons reçue dans notre va jusqu'à dans notre âme. Alors là, dans l'âme, il y aura bien sûr une explosion. Alors la vie de Dieu lui-même peut naître à nous et la puissance de Dieu se manifester. Mais d'abord, nous pouvons voir, nous pouvons l'écouter, entendre parler de ces choses. Mais ce que Dieu nous montre par l'annonce de sa parole, ce que nous écoutons, ce que nous entendons, nous le recevons, n'est-ce pas, dans notre cœur. Mais quand, alors, ça va assez profondément, c'est aller jusqu'à notre âme, pas seulement dans notre tête, mais directement comme un canal, c'est conduit jusqu'à dans l'âme. Et que là, dans l'âme, ça peut devenir la puissance de Dieu. Si la parole, parce que dans notre tête, on réfléchit, c'est la réflexion, mais dans le cœur, on croit. Et c'est peut-être en tant que ce que nous écoutons. Cela doit atteindre notre cœur. Et là, dans le cœur, l'écoute de la parole produit la foi. La foi vient, survient, naît. Et c'est peut-être ce qu'il est écrit ici. Voilà pourquoi vous devez être prêt et revêtu spirituellement de toute l'armure pour aller de l'avant avec audace. Soyez donc sobre et mettez votre espérance uniquement dans la grâce qui vous est offerte dans la révélation de Jésus-Christ. Je l'ai toujours de nouveau souligné. La révélation de Jésus-Christ est pour nous la chose la plus, est devenue pour nous la chose la plus précieuse que nous avons reçue. C'est ainsi que, en fait, commence le dernier livre de la Bible, la révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné, donc à lui, à Jean, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dans la révélation de Jésus-Christ, toutes les révélations de Dieu sont contenues. La révélation de la parole, de l'esprit, de la puissance de Dieu. Tout fleuve divin depuis Golgotha se déverse dans l'Église et par l'Église, dans chaque membre, par chaque membre, ils deviennent une partie de la révélation de Jésus-Christ, une tente d'assignation de la révélation de Jésus-Christ ici sur cette terre. Allons dans 1 Pierre chapitre 5 et ici à partir du verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobre et vigilant. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion affamé, rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, car vous savez que les mêmes afflictions sont affligées à vos frères dans le monde entier. Mais le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ, après un court temps de souffrance, il vous préparera pleinement, vous affermira, vous fortifiera et vous fondera. Peut-être encore cette partie. À lui la puissance pour toute l'éternité. Amen. Et là, nous pouvons seulement que dire Amen parce que nous mettons notre confiance en Dieu. Parce que nous avons mis notre confiance en lui, en Dieu. Soyez sobre et vigilant, veillez. Verset 8, il a relu. Nous avons lu tout à l'heure, avant le verset 8, au verset 13, de 1 Pierre. Nous avons lu que nous devons être prêts et revêtus spirituellement de toute l'armure pour aller de l'avant avec audace. Nous devons être sobres et mettre notre espérance uniquement dans la grâce qui nous est offerte dans la révélation de Jésus-Christ. Et ensuite, ici, il nous est dit, dans 1 Pierre 5, verset 8, d'être sobre, vigilant et de veiller. Pourquoi? De quoi il s'agit? Il s'agit de ce seul sujet. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion affamé, rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Il ne dévore pas tout de suite. Il influence d'abord. Il met la patte comme ça entre la porte. D'abord, il essaye de prêter votre oreille, que vous puissiez lui prêter votre oreille. Je vais vous lire de la prédication de Frère Branham. Dieu et le diable. Chacun d'eux ont besoin d'hommes, de personnes. Et nous devons être attentifs à savoir qui parle par qui. Qui, quand quelqu'un parle là, c'est qui parle par lui. Et ce qui est dit, on doit discerner si cela vient de Dieu ou pas. Est-ce que cela est édifiant? Est-ce que cela m'aide? Est-ce que cela unit et joint? Ou bien est-ce que cela divise? Et est-ce que c'est d'une autre nature, justement? Tout ce qui vient de Dieu unit, ramène à Dieu tout le reste, détruit. Et souvent, d'une apparence plus pieuse que ce qui est offert de du côté de Dieu. Mais nous avons besoin du discernement pour savoir quel est le sens et l'objectif d'une action. Quel est le motif dans tout ce qui se passe. Et j'ai de cette leçon compris, car j'ai dû boire la coupe jusqu'à la vider. J'aurais presque pu dire, « Oh Seigneur, laisse passer cette coupe à côté de moi. » Parce qu'elle m'est terrible. Mais malgré tout, nous n'avons pas pu choisir les épreuves et décider quel rôle nous voulons prendre, quel mandat nous avons à exécuter. Les choses ont été déterminées par Dieu et nous sommes soumis au plan de Dieu, au dessein de Dieu et sommes ainsi nous-mêmes devenus une partie du plan de Dieu, pour pouvoir nous-mêmes devenir une partie du plan de Dieu. Donc, ici, on a lu que le diable, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion affamé, rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Cela me rappelle Apocalypse chapitre 12, où le dragon ouvre sa gueule pour engloutir le fils mâle dès qu'il naîtrait. Le diable a plusieurs désignations. Dragon, serpent ancien, et on peut continuer le registre. Qui est-ce qui veut engloutir? La troupe des vainqueurs. Ceux qui sont déterminés à être levés sur le trône. Les autres qui n'ont pas, par l'élection, cette détermination. Ils les bercent dans leur sommeil. Mais ceux qui ont été déterminés par Dieu à la béatitude, à être bénis et à voir la gloire de Dieu, c'est sur eux que le diable déverse toute sa colère. Et nous pouvons être reconnaissants quand nous passons par des épreuves et des incompréhensions et des tribulations, des calomnies et des mépris et toutes sortes de choses. Qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Si les choses vont pour le serviteur comme son maître, qu'il soit satisfait. Il a dit, si ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils ont reçu ma parole, ils recevront vos paroles. Ils ont écouté ma parole, ils écouteront vos paroles. Celui qui vous écoute, m'écoute. S'ils m'ont écouté, ils vous écouteront. Donc, ne regardons pas aux épreuves et aux circonstances. Même si elles sont dures, regardons, Seigneur, pour ne pas être confus, ni en nous, ou bien aux autres, ou bien déçus. Car ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin qui sera couronnée. C'est ainsi que nous l'avons lu. Combattez pour la foi qui a été transmise pour toutes aux saints. Qu'est-ce que Caleb disait autrefois? Après les 40 jours de marche dans le désert, il a dit, aujourd'hui, je suis encore comme j'étais il y a 40 ans. Rien n'avait changé en lui. Il était ensemble avec Josué. Les deux étaient revenus et avaient porté le fruit du pays de la promesse comme preuve de la parole de Dieu. Et ils ont dit dans la foi, nous sommes plus que capables d'entrer en possession du pays. Le pays est tel que Dieu l'a dit. Aujourd'hui, nous parlons de la foi au milieu d'un monde incrédule. Parmi un monde incrédule, et malgré tout, cela est possible par la grâce de Dieu. Parmi donc toute cette incrédulité, croire malgré tout Dieu et de lui faire confiance et savoir. Celui qui nous a fait sortir nous fera aussi entrer. Celui qui nous a rachetés nous gardera aussi, gardera son héritage. Et même si nous trébuchons et tombons, il nous relèvera, renouvellera nos forces pour que nous puissions nous élever comme des aigles, pour que nous puissions marcher et ne pas nous fatiguer pour atteindre le but. Et comme nous avons besoin là l'un de l'autre, parfois ça atteint l'un l'autre, ou bien parfois on est atteint nous, ou on a un problème, ou bien alors une faiblesse, alors quelqu'un viens et dis, ne te décourage pas, viens, continuons à marcher avec l'aide de Dieu. Seulement une seule phrase, de l'amour, avec le ton adéquat au moment convenable et adéquat peut produire des miracles dans la personne. Que Dieu puisse nous utiliser et permettons au Seigneur de nous accorder les paroles adéquates au moment adéquat pour encourager celui qui est fatigué et chargé, lui donner une parole de consolation au temps convenable, d'encouragement pour qu'il puisse retrouver des forces. Vous allez voir, Dieu utilise des hommes qui se servent les uns les autres, qui se tendent la main à l'un à l'autre. Le culte ne se termine pas avec la prédication. C'est là même qu'il commence entre nous qui ensuite mettons en pratique ce que nous avons entendu par la prédication. C'est là que le culte même commence, le vrai culte. Et nous voulons aller dans Jacques, le chapitre 2. Dans Jacques, chapitre 2. Et c'est l'apôtre expose très clairement les choses. Jacques, chapitre 2. Dès le verset 20. Comprendras-tu, homme irréfléchi, que la foi sans les œuvres est morte? Notre père Abraham n'a-t-il pas été justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel des sacrifices? Tu vois par là que la foi a agi avec ses œuvres. et que la foi n'a été portée à sa perfection que par les œuvres. Je me réjouis de cette parole. Je lisais justement il y a plusieurs années, ça fait peut-être plus de 25 ans, sur ce texte concernant donc l'exposé d'un docteur de théologie sur ce texte justement. Dans quel contraste Jacob s'est opposé à Paul? Pas du tout. Il n'y a pas d'opposition. Du tout. Dans la Bible, il y a un complément, un éclaircissement de plusieurs côtés, mais pas d'opposition. Paul a souligné que la foi sauve sans les œuvres que l'homme peut faire par lui-même. Paul n'a pas ici remis en question le fait que nous devions être obéissants à ce que Dieu nous demande. Abraham n'a rien fait pour être sauvé et par cela gagner ainsi la faveur de Dieu. Abraham a cru Dieu. Abraham a obéi à Dieu. Abraham a fait ce que Dieu disait, a dit, ce que Dieu a dit. Ça, ce sont des autres œuvres, ce sont des œuvres différentes que des bonnes œuvres faites à droite et à gauche dans les religions. Ici, concernant Abraham, ce sont des œuvres de la foi. Et je peux, de l'Épître aux Hébreux, vous lire, Abraham, au chapitre 11, que Abraham croyait que Dieu allait ressusciter Isaac des morts. Et il a dit à ses serviteurs, restez ici. Mon fils et moi, nous allons adorer. Et nous reviendrons. Il ne disait pas que moi, je reviendrai seul. Il dit nous reviendrons. Donc, la foi liée avec l'obéissance envers Dieu, l'obéissance liée à l'exécution de ce que Dieu nous a ordonné de faire. Et alors là, même les morts peuvent être ressuscités. Si Dieu peut réaliser cela avec nous dans ces derniers jours, que la foi dans l'obéissance n'est pas seulement, que l'obéissance ne soit pas seulement une audace pour s'encourager, mais que le courage est déjà contenu dans l'obéissance et que la foi est aussi contenu dans l'obéissance comme avec Abraham. Que nous puissions prendre Dieu au mot et l'estimer fidèle et plus que capable d'accomplir chaque promesse qu'il a donnée, qu'il a faite. Je voudrais pas ici utiliser le mot « doit ». Dieu ne doit rien du tout. Mais il le fait parce qu'il est fidèle. Il fait ce qu'il dit, ce qu'il promet. Il faudrait que le ciel se soit écroulé pour ne pas que ta parole s'accomplisse. Comme le cantique le dit, le ciel et la terre brûlent et les collines disparaissent. Mais celui qui croit expérimentera la parole de Dieu. Celui qui croit ne peut pas être déçu, ne peut pas être confus. Toi, crois ce que Dieu a promis. Et aie le courage, l'audace dans l'obéissance de la foi, te tenir sur les promesses de Dieu. Et tu verras, et tu repartiras avec le miracle de Dieu à la maison. Comme Abraham est reparti avec le miracle à la maison. Crois en ce que Dieu a dit, dans ce que Dieu a dit. L'obéissance envers ce que Dieu exige de nous et ensuite de le mettre en pratique, de faire ce que Dieu ordonne. C'est en cela que nous verrons notre foi justifiée, la confirmation de notre foi, la vie de notre foi, la puissance de notre foi, une foi vivante au moment. La foi n'est plus morte à ce moment-là pour se laisser ensevelir, enterrer. Mais en ce moment-là, la foi est vivante parce que nous sommes ressuscités avec Christ. C'est écrit dans Romains 6. par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans sa mort et avec lui, nous sommes ressuscités pour désormais marcher en nouveauté de vie. La foi liée avec l'obéissance. Et l'obéissance conduit ensuite à l'œuvre, à la pratique, à l'œuvre. Et nous l'avons déjà observé ici, alors que Dieu le Seigneur disait à Moïse, « Prends la verge et frappe le rocher et je ferai sortir de l'eau. » Vu humainement, c'était impossible. Comment est-ce que d'un rocher, de l'eau puisse sortir? De l'eau puisse sortir seulement parce que quelqu'un frappe le rocher avec une verge. Mais si c'est Dieu qui l'a dit. Moïse l'a écouté de la voix audible de l'Éternel, ce Dieu vivant. Et ces paroles-là lui ont pénétré tout l'être. Il savait rien d'autre que de prendre et de faire ce que le Seigneur lui a dit, de prendre la verge sans hésiter, sans trembler. Et dans la foi, dans l'obéissance de la foi, faire ce que le Seigneur lui a dit sans raisonner. Et je ne devais pas m'étonner, car Moïse a dû sûrement sauter du côté, parce que l'eau, dès qu'il a frappé, a jailli du rocher. Qu'est-ce que c'était? L'obéissance de la foi, pas des œuvres que toi et moi nous aimerions faire pour avoir la faveur de Dieu, non. Je me rappelle de Jean 14, verset 12, la parole que frère Branham aimait, et aussi ensemble avec Hébreux 13, verset 8, notre Seigneur dit dans Jean 14, verset 12, « Ceux qui croient en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Quelle sorte d'œuvres étaient les œuvres qu'il faisait? Pas des œuvres quelconques, mais des œuvres qui appartenaient à son ministère, des œuvres qui appartenaient au devoir, à la tâche qui lui avait été confiée, car c'est ainsi qu'il est écrit dans Ésaïe 35. Voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf, etc. Tout ça appartenait à son ministère. Qu'est-ce qui appartient au ministère de l'Église? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons, devant la face de Dieu, nous tenir dans cette tâche commune. Et plus nous le faisons, et plus rapidement, nous pourrons voir Dieu agir parmi nous. Alors ce ne seront pas les œuvres que nous pourrions faire de nous-mêmes. Non, alors nous allons aussi pouvoir dire, comme le Seigneur lui-même a dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Père qui habite, qui demeure en moi, c'est lui qui fait ces œuvres. Alors, nous pourrons dire, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais le Seigneur, mon Sauveur, c'est la puissance de Dieu qui, alors, par nous, les faibles pour eux sera manifesté. Qui désire cela en fait? Qui aspire à cela? Qui veut être revêtu de la puissance d'en haut? Qui veut dans l'Église voir l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu? Qui veut voir la puissance, la résurrection de notre Seigneur? Qui veut la témoigner après l'avoir reçue et expérimentée? Mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons arriver à cette condition. Nous ne pouvons pas tout le temps être toujours en train d'être préparé à un dernier combat sans entrer dans ce combat. Je crois que le dernier combat sera une grande victoire de Dieu. Et comme c'est écrit dans Ésaïe 49, versets 24 et 25, à l'ennemi, le butin sera enlevé. La victoire de notre Dieu n'est pas encore arrivée à son point culminant, mais dans l'Église. Mais nous allons vers ce but. La foi, c'est bien. Mais la foi nous oblige à faire ce que Dieu, dans sa parole, nous a dit. Et qu'est-ce que notre Seigneur a dit après sa résurrection? Aux onze, il leur a dit, allez dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croit et celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et alors, suis cette phrase, ce verset. Voici les signes qu'accompagneront ceux qu'auront cru. Ceux qui auront cru, celui qui ne croit pas, il ne peut pas le suivre. Il peut peut-être, lui, poursuivre les miracles, mais ce n'est pas les miracles qui vont le suivre. Non. Nous voulons nous laisser accorder cette grâce de la part de Dieu que nous ne puissions pas appartenir à ceux qui poursuivent des choses et qui suivent des hommes et vont après un homme particulièrement rempli de dons. Regardez un homme et ensuite nous étonner de ce qu'il n'y a pas eu de miracle. Maintenant que nous puissions appartenir à ceux qui ne sont pas trompés et qui ne suivent pas les miracles, mais que ce soit les miracles qui nous accompagnent, qui nous suivent, qui nous entourent. Alléluia! Loué soit notre Dieu, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Et s'il habite en nous, il demeure en nous, alors nous lui laisserons la priorité, la première place, la suprématie, et il pourra se manifester, se révéler. Il ne va pas seulement vivifier sa parole, il va aussi la confirmer. Je lis encore très rapidement. Jacques chapitre 2, verset 22. Jacques chapitre 2, verset 22. Tu vois par là que la foi a agi avec ses œuvres et que la foi n'a été portée à sa perfection que par les œuvres. Et que c'est seulement ainsi que s'est accomplie la parole de l'Écriture qui dit « Abraham a cru Dieu. » Et cela lui a été compté comme justice et qu'il a été appelé l'ami de Dieu. Alléluia! Mon cœur est touché. Touché de ce que Dieu, d'une manière si claire, parle avec nous. Sans détour, il a devant nous dévoilé, exposé comment est-ce que ce chemin divin, spirituel, doit être suivi et comment est-ce qu'il nous mène au but. Donc, la foi liée avec l'obéissance, avec l'acte, aussi liée et ensuite justifiée et appelée l'ami de Dieu. Qu'est-ce que notre Seigneur dit dans Jean 15? Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Car un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai ordonné. Ce que je vous ai dit, commandé. Abraham avait fait ce que le Seigneur lui avait commandé de faire, ordonné de faire. Il croyait et il était obéissant. Et il avait la justification de la foi qu'il avait reçue à l'endroit même où il avait fait ce que Dieu avait dit. Où est-ce qu'il avait reçu? Est-ce qu'il aurait reçu s'il était resté à la maison? Non. Il est allé, c'est après 3 jours de voyage qu'il a ouvert les yeux. Et que devant les yeux, il vit de loin la montagne de Moria. Et il est allé à cet endroit. Et laissez-moi ici, doucement et avec recueillement, dire. À cet endroit où la foi d'Abraham, par l'acte, dans l'obéissance, fut prouvée, c'est en cet endroit-là que Abraham a reçu la justification divine et il pouvait repartir comme un ami de Dieu. Il croyait Dieu. Il obéissait à Dieu. Il faisait ce qui lui avait été demandé. C'est en cet endroit-là, justement, où il était devenu quelqu'un qui était en train de mettre en pratique la parole qui lui avait été adressée. C'est à l'endroit-là même où l'acte fut posé, que la justification fut comptée pour lui. Où est ta justice et ma justice? Ta justification ou ma justification? Une imagination? Un souhait qui plane dans l'air? Non. Ta justification et ma justification est là. Où, pour toi et pour moi, elle eut lieu. Elle eut lieu, c'est-à-dire, en fait, la montagne de Moria, vous savez, à Jérusalem, n'est pas loin de l'endroit de Golgotha, par la vallée, là-bas de l'autre côté, et quand on passe au bout, le même endroit où la chambre haute était, le même endroit où l'effusion de cet esprit avait eu lieu, au bord de la montagne de Sion, là-bas. Là-bas, il y avait eu un homme qui était obéissant à Dieu. Là-bas, il avait reçu la justification. Quand, où est-ce que tu reçois, toi, ta justification? Il est écrit, pour étant justifié par la foi en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, vous connaissez tous Romains 5, nous avons reçu la paix avec Dieu. Où est-ce que nous trouvons la paix avec Dieu? Je vais vous dire maintenant. Je vous le dis de la profondeur de mon âme, de notre Seigneur. Dans Hébreux, il est écrit qu'il était obéissant. Et aussi dans Philippe, dans Colossiens, il était obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Hébreux 5, Philippe 2, Colossiens, obéissant jusqu'à la mort. La désobéissance d'Adam et d'Ève ont été ôtées, annulées par l'obéissance du deuxième Adam, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, comme Fils de Dieu, a été abaissé sous les anges pour pouvoir souffrir et mourir. Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix, à la croix. Dieu ne pouvait pas faire autre chose que en cet endroit de l'obéissance-là, accorder à l'humanité, restituer à l'humanité la justice, la justification, sa justification, et par le Saint-Saint, réconcilier l'humanité avec lui-même, par son Saint-Saint. Là-bas, nous voyons Abraham, sur la montagne de Moria avec Abraham, avec Isaac, et ici, Dieu qui, par Christ, a réconcilié le monde avec lui-même. C'est la même montagne. La pleine obéissance, être abaissé, c'est s'être dépouillé et être obéissant jusqu'à la mort de la croix. De Christ, dans d'autres religions, il est parlé aussi de lui. Aujourd'hui, tous sont informés de tout. Depuis que les médias existent, tous savent, n'est-ce pas, de toutes les religions, sur toutes les religions. Nous annonçons Christ. Nous prêchons Christ le crucifié. Notre Sauveur, notre justification, lui, notre tout et tout. Lui, comme avec Abraham, dans l'endroit où l'obéissance de la foi a été prouvée par l'acte et que son fils lui fut restitué. Il fut justifié devant Dieu. Il est reparti avec son fils. C'est comme ça que cela a eu lieu avec toi, avec moi. Jésus-Christ, notre Seigneur, comme Fils de Dieu, par ses souffrances, a appris l'obéissance. Il s'est sacrifié, il s'est offert, et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Maintenant, c'est à nous. Il nous est demandé, on est appelé à le suivre, à marcher dans ses traces, sur ses traces. Je vais vous lire sur cela une parole, je crois que c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante naturelle. Le dernier Adam est devenu esprit. un être spirituel qui crée la vie. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est naturel, qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est d'origine céleste. C'est l'Éternel du ciel. Tel qu'est l'homme terrestre, tel aussi sont les hommes terrestres. Et tel qu'est l'homme céleste, tels aussi sont les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia! Pleine rédemption, plein salut, jusqu'à même le changement de ce que nous sommes maintenant dans ce que nous serons. J'aimerais brièvement de cette prédication lire quelques passages, plusieurs passages. Il s'agit de ce grand combat, cette grande bataille, le combat de la foi dans lequel nous avons été placés. Je voudrais rapidement dire, encore au moment où nous sommes consciemment mis du côté de Dieu, alors, par cela, nous déclarons la guerre à l'ennemi. Le fait de nous mettre du côté de Dieu. À ce moment-là, l'ennemi est notre adversaire. Dès que nous sommes décidés pour Jésus-Christ, vous savez que le Seigneur a ôté l'inimitié pour que nous ayons la paix avec Dieu. Je lis dès la page 9. Ici, il est écrit, en allemand, page 9, la plus grande bataille jamais livrée. Il n'y a que deux pouvoirs et deux royaumes. Tout le reste est lié à l'un de ces pouvoirs. Ces pouvoirs sont le pouvoir de Dieu et le pouvoir de Satan. D'où vient toute guerre, tout gâchis. Tout ce qui arrive, arrive soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Ce sont les deux seuls pouvoirs qui existent. C'est le pouvoir de la vie ou le pouvoir de la mort. Ce sont les deux seuls pouvoirs. L'humanité se tient entre ces deux pouvoirs. Et nous devons, par ce qui est divin, recevoir une relation divine. Et puisque de nature, nous sommes nés dans le péché, et qu'en nous, nous sommes venus avec rien de divin en nous, nous avons besoin de quelque chose de divin. Une semence de Dieu, incorruptible, doit être placée en nous, dans notre âme, pour que par cela, par le divin qui est placé en nous, par la semence corruptible, nous recevons pour créer en nous la relation avec Dieu. Car ce qui est humain restera humain, ce qui est divin restera divin. Alors nous avons besoin de la parole de Dieu comme semence incorruptible, divine, qui est placée dans nos cœurs. Et par cela, nous avons la relation du divin qui a été placé en nous, au divin qui nous est préparé et qui a été annoncé par beaucoup de promesses. Je continue à lire. La puissance de Satan est l'inverse de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu pervertie. Ce n'est pas un vrai pouvoir parce que tout ce que Satan a est une perversion du pouvoir de Dieu. Satan est celui qui pervertit la parole, il tord le sens, il apporte la confusion partout. Et le mot diable, diabolo, veut dire celui qui apporte le désordre, qui apporte la confusion. Partout là où il y a des incompréhensions parmi les croyants, parmi où il y a du désordre, où il y a de la confusion, où toutes ces choses arrivent, c'est le diable qui est derrière tout cela. Là où Dieu parle et agit, là où il y a la clarté, là, les choses sont réglées. Là, il y a la paix. Là, il y a tout ce qui manifeste et peut révéler les fruits de l'Esprit de Dieu. Je continue à lire. Nous tous assis ici aujourd'hui sommes dirigés par un pouvoir ou un autre. Alors, écartons le mal et prenons position comme les étoiles du ciel. Mettons le mal dehors, écartons le mal. Vous savez, il est écrit que Caïn était du malin. Et il y en a qui n'ont pas la révélation sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, en quoi a constitué la séduction. Ils ne veulent pas croire cela, mais la Bible parle du malin. Et cela ne veut pas dire Adam. Là, vraiment, ça veut parler du malin. Comment est-ce que nous pouvons le faire sortir de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, de nos actes et de nos vies? Comment nous pouvons le mettre dehors? En le reconnaissant en tant que ce qu'il est. C'est la seule possibilité. Et ensuite, retirer son camouflage, le mettre de côté, et ensuite voir la réalité. Je continue à lire. La première grande bataille a commencé dans le ciel, lorsque Michaël et ses anges se sont battus contre Lucifer et ses anges. La première bataille a eu lieu dans le ciel. Ainsi, le péché n'a pas son origine sur terre, mais au ciel. Puis il fut précipité du ciel sur la terre et tomba sur l'humanité. La bataille des anges est devenue une bataille entre les hommes. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit ici? La bataille a changé de place. D'en haut maintenant, ici en bas sur terre. Ça continue. Satan est venu pour détruire la création de Dieu. Que Dieu s'est faite lui-même, pour lui-même. S'est créée pour lui-même. Satan voulait les détruire. C'était son plan. C'est ainsi que la lutte a commencé ici-bas. Cela a commencé en nous et continue depuis. La bataille a lieu en toi et en moi, par nous, mais de manière où notre texte l'avons lu aussi, nous serons ou alors dirigés par un pouvoir ou par un autre, l'un des deux. Il n'y en a que deux. Jésus, notre Seigneur, disait une fois, alors qu'un disciple lui disait, il utilisait cette expression, « Si tu veux, prononce et dis que le feu tombe du ciel et les consume. » Et il a répondu, « Sais-tu de quel esprit tu es là? Savez-vous de quel esprit vous êtes enfant? Nous devons savoir. Ne savez-vous pas de quel esprit vous êtes enfant? Nous devons savoir de quel esprit nous sommes enfants. Et si nous sommes enfants de Dieu, il faut quand même veiller à ne pas se laisser inspirer, animer, tromper, influencer dans nos pensées par des pensées que l'ennemi nous donne. Car c'est avec les croyants qui peut causer le plus de malheur, faire le plus grand mal. Avec seulement 10 croyants, il peut faire plus de dégâts qu'avec 100 000 incroyants. C'est ainsi. Vous savez, on n'a même pas besoin d'entrer dans les détails de ces choses. Donc, nous devons faire attention pour savoir au service de qui nous sommes. Quel langage nous parlons? Qu'est-ce que Jacques écrit? Celui qui ne peut pas garder sa langue en bride, son culte est en vain, est inutile, est en vain, il perd son temps. Il fait que réchauffer les chaises, il pourrait rester à la maison. Sur combien de choses Dieu nous a parlé dans sa parole, que nous devons vivre, mettre en pratique des choses avec lesquelles nous devons nous identifier pour examiner de quel côté nous sommes et au service de qui nous nous tenons. Je continue à lire, citation. Ne manquez pas cela. Lorsque cette grande bataille sur terre a commencé, un champ de bataille commun a dû être choisi. Par où commencer? La lutte commence dans l'esprit humain. C'est là que le combat commence. L'esprit humain a été choisi comme premier lieu. Cela commence là. Et pour la raison, souvent parce que c'est là que les décisions se prennent, dans la tête, avec l'esprit humain. Je ne sais pas si nous comprenons cela. Mais si par exemple nous écoutons la parole de Dieu, ou bien alors recevons annoncé de nous décider pour Christ, alors nous devons, de ce que nous avons écouté, former un oui. Nous devons avoir un oui de tout notre cœur, accepter, avoir une réception. Nous devons pouvoir dire oui, amen, à l'offre de grâce de Dieu. Avant que l'effet divin puisse être révélé dans le cœur, manifesté dans le cœur, nous devons avoir reçu dans notre cœur ce que nous avons écouté, ce que nous avons entendu, et dire oui et amen à cela, et l'accepter. Et si nous sommes appelés de Dieu, nous devons pouvoir dire, me voici. Pas faire comme Adam et Ève, se cacher, mais simplement dire, me voici. Dieu nous voit tel que nous sommes de toute manière. Il nous appelle ensuite et il veut que nous soyons tous secourus. Je continue à lire. Citation. Les décisions se prennent dans l'entendement, dans la raison qui est dans l'esprit humain, dans la tête. Là, c'est là que vous rencontrerez Satan. Des décisions doivent être prises parce que c'est ainsi que Dieu a créé l'homme. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un petit dessin. Je l'ai utilisé ici sur le tableau récemment. Ici, nous venons très brièvement, très rapidement à la fin, avant la fin, à ce point duquel il doit maintenant s'agir maintenant. Une décision pour Dieu. Dieu, lui, s'est décidé pour nous. C'est clair. Dieu a été pour nous. Golgotha est la preuve apportée de l'amour de Dieu à notre égard. C'est à Golgotha que en Christ, le oui divin envers nous et le amen divin envers nous a été prononcé. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais le oui divin envers toi et moi exige aussi ton oui envers Dieu, envers lui qui s'est décidé pour nous. C'est ainsi que les hommes doivent prendre leurs propres décisions en raison du libre arbitre que nous avons reçu. Et cette décision-là passe par une bataille, par une lutte. Va devoir passer par cela. Il n'y a aucun homme qui vient sous les coups de la parole. C'était comme ça, c'était pendant les réveils, c'était comme ça. Des hommes sont venus pour la première fois à l'écoute de la parole. Et ils avaient seulement que 2-3 heures de temps parce que, vous savez, autrefois, les gens n'ont pas arrêté de prêcher jusqu'à que le dernier pécheur venu n'était pas couché en larmes au sol. C'est seulement après ça qu'ils ont arrêté la prédication. Que ce soit le soir, que ce soit jusqu'à minuit ou bien jusqu'au matin, ça n'avait aucune importance. Ils ont prêché jusqu'à ce que le dernier pécheur soit converti et qu'il soit allongé là en larmes. Amen, amen. Nous souhaitons jusqu'à que le résultat soit là. Nous souhaitons de telles réunions, que le résultat divin soit apporté, que les gens repartent à la maison avec le résultat divin dans leur vie. Et aujourd'hui, vous pouvez repartir avec cela dans votre vie, à la maison. Mais ça passe par une lutte, par une bataille. Qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mes collègues vont dire? Qu'est-ce que mes camarades vont dire? Qu'est-ce que le voisin va dire? Qu'est-ce que le maître va dire? Qu'est-ce que l'enseignant va dire? Qu'est-ce que papa va dire? Qu'est-ce que maman va dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? C'est là, cette bataille commence ici, dans notre tête. Nous avons écouté la parole de Dieu. Dans notre cœur, nous l'acceptons. Nous disons, oui, Seigneur, je veux être près du Seigneur. Je veux aller au ciel. Je veux être sauvé. Je veux être près avec Dieu. Et là, la bataille commence dans la tête. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Hein? Les voisins, quand ils me verront que je ne suis plus le même, qu'est-ce qu'ils vont commencer à dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? La bataille n'est pas ici. Quelque part en haut. Elle n'est pas, ou bien à côté de toi. Elle est en toi, dans ta tête, dans ton entendement, dans ta réflexion. Comment est-ce que tu vas te décider? Je suis convaincu que nous sommes tous assis ici, mais nous avons des batailles, des luttes. Et si je posais la question, dans combien de vous, il y a un combat, une lutte, un combat, une bataille qui doit avoir comme résultat une décision à prendre? Hein? On est ballotté à droite et à gauche. On se sent attiré au Seigneur et l'ennemi vient et dit, oh, tu vas perdre tous tes amis. qu'est-ce qui va se passer au travail? Quand tu vas t'habiller comme ça, tu vas devenir la moquerie de tous. La bataille se déroule. Comment est-ce qu'elle doit se terminer? Elle doit se terminer avec une victoire de Dieu, avec une décision pour Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes passés par cette lutte, oui ou non? Par cette bataille, oui ou non? Certains de nous sont encore dans cette lutte. Je veux dire, nous tous, en fait, passent pour la lutte, pour une décision, pour Christ, mais une lutte pour beaucoup d'autres choses qui ont un caractère spirituel. Donc, regardez, la bataille est là de toute manière, pour tous. Encore très rapidement, je lis. C'est exactement vrai. Il y a qu'une seule voie de décision. Et cela, cette voie, elle a lieu par le libre arbitre. Vous pouvez laisser agir en vous le doute ou alors la foi. Quoi que vous voulez laisser agir en vous, vous avez le libre arbitre de le faire. Si cette église, maintenant, de cette manière-là, d'une telle manière, peut être unie les uns avec les autres, être unis vraiment, d'une manière qu'on soit tous vraiment d'un commun accord, sans ombre de doute. Alors, en 5 minutes, il n'y aurait aucune personne faible parmi nous, à trouver parmi nous. Tous ceux qui, ici, voudraient recevoir le Saint-Esprit, le recevront. Si nous pouvions seulement faire en sorte que ce canal soit en ordre, de Dieu jusqu'à notre cœur. Donc, si nous terminons avec ces paroles, si nous voulons finir avec ces paroles, conclure donc ces paroles et résumer ce que nous venons d'écouter. Donc, il s'agit de la foi. Il s'agit de la confiance. Il s'agit de la foi en Dieu. De la foi en ce qu'il a dit. L'obéissance pour faire ce qu'il nous demande. Pour que la foi, pour recevoir de Dieu la justice de la foi, car notre propre justice vient par nos propres œuvres, mais la justice de Dieu est accordée à ceux qui croient à l'œuvre de Dieu qui a été accomplie et qui a eu lieu sur la croix à Golgotha, et qui se place dans la foi sur cette œuvre accomplie, dans cette œuvre accomplie, et consciemment accepte ce que Dieu a préparé pour eux. Et cela peut avoir lieu aujourd'hui. Si d'un commun accord nous pouvons croire, étant unis, que Jésus-Christ, réellement, encore aujourd'hui, est le même, alors nous pouvons, de la même manière, aussi croire d'un commun accord dans l'union, qu'il sauve encore aujourd'hui, il délivre encore aujourd'hui, il guérit encore aujourd'hui, et il baptise encore d'esprit et de feu aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, il se manifeste encore aujourd'hui. Et qu'il parle encore, qu'il agit encore aujourd'hui. Jésus-Christ vit. Et il est ressuscité. Il a donné la promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il veut être avec nous et être en nous pour qu'il puisse par nous faire son œuvre. D'Abraham, Dieu n'a rien exigé d'autre que l'obéissance, que dans l'obéissance, faire ce qui lui a été dit. C'est tout. Et c'est ce que Dieu exige de nous. Dieu ne nous impose pas un joug et un fardeau que nous ne pouvons pas accomplir. Son joug est doux et son fardeau est léger. Il nous porte, il nous agrée et ôte de nous ce qui nous afflige, ce qui nous charge. C'est pour cette raison qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ça, c'est son offre. Venons, il dit, venez à moi, dit notre Seigneur. C'est ainsi que nous vous disons aussi à vous tous, particulièrement à ceux qui aujourd'hui, peut-être pour la première fois, écoutent le message de l'Évangile. Soyez réconciliés avec Dieu. Croyez que à Golgotha, une réconciliation de Dieu avec l'humanité a eu lieu. Croyez que Dieu était en Christ et que Christ est mort à notre place pour que nous puissions vivre pour lui. Oui, pour que la vie divine par l'Église, la vie de Dieu par l'Église soit manifestée, puisse être révélée, manifestée. Abraham croyait, Abraham obéissait, Abraham faisait ce que Dieu lui disait. Je pourrais continuer avec d'autres écritures, beaucoup d'écritures. Seulement un. Galates 4, verset 28. Pour vous, frères, à la manière d'Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Abraham avait la promesse, avait reçu la promesse. Et cette promesse disait, en Isaac seront bénis toutes les nations de la terre. Et justement, celui par qui toutes les nations devaient être bénies, il devait être offert en sacrifice. Vous voyez, Dieu a exigé beaucoup. Et il a restitué plus de ce qu'il avait exigé. Alléluia. Dieu ne prend pas, il donne. Et même s'il nous ôte des mains et du cœur, ce qui l'empêche de mettre en nous, ce qui doit être en nous, alors nous devrions lui dire merci d'avoir ôté tout ce qui est un obstacle. Et nous devrions lui dire, nous voici Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Fais de nous des hommes comme Abraham. Des hommes qui sont appelés amis de Dieu. Et que cela ne serait pas merveilleux si subitement une amitié, une relation d'amis entre nous et Dieu existait. Vous êtes mes amis. Pas seulement serviteurs et servantes, mais des fils et des filles de Dieu. Il a parlé avec nous et il a fait une alliance avec nous. Et nous avons été livrés à la mort. Nous sommes crucifiés avec Christ et morts avec lui. Mais nous ne sommes pas restés dans la mort. Nous sommes ressuscités avec lui. Et les choses vont pour nous comme avec Hazar et Abraham et Isaac. Nous sommes revenus comme ils sont revenus de l'autel, mais avec la différence que nous sommes revenus de l'autel. Mais Isaac, lui, il était sacrifié, il était sur l'autel. Il a été sacrifié. Le couteau était déjà levé. Plaçons-nous, c'était la différence, mais plaçons-nous sous l'autel de Dieu. Croyons que nous sommes crucifié avec Christ, nous avons été crucifié avec lui et mort avec lui. Et alors, nous ressusciterons avec lui comme des hommes nouveaux. Et dans la joie, nous marcherons en nouveauté de vie. La foi par l'obéissance a été justifiée. Nous avons besoin d'une foi qui n'est pas morte. Mais qui est justifiée étant vivante par les œuvres qui sont faites par la foi et la puissance de Dieu pour que par cela, la parole de Dieu soit confirmée. Croyez-vous que Dieu le fera? Je le crois. Je le crois. Il le fera. Loué et exalté soit son merveilleux et saint nom. Amen.